stops you. Are you racing or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault, Clémence Marie et Sarah Dion. Prise de son à soi ce soir par Alice Seyel. Réalisation Guillaume Baldi. Et autour de moi, ce soir, Lucille Como, Muriel Joudet et Julien Gester pour parler ensemble de Wildlife de Paul Dano, L'homme fidèle de Louis Garrel, Le retour de Mary Poppins de Rob Marshall et puis un coup de cœur de Lucille Como pour Roma d'Alfonso Cuarón. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour la nocturne des expositions Egon Schiele, Jean-Michel Basquiat, nocturne à vivre le vendredi 4 janvier à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Et nous ouvrons cette dispute avec Wildlife, premier film réalisé par l'acteur Paul Dano, vu dans Little Miss Sunshine, There Will Be Blood, ou en ce moment dans Escape at Dannemora, mini-série dont nous avons parlé il y a deux semaines dans la dispute. Dano a donc choisi d'adapter un roman de Richard Ford, Une saison ardente, publié en France aux éditions de l'Olivier. Nous sommes dans le Montana des années 60. Et nous allons voir à travers les yeux de Joe, 14 ans, fils unique, comment le couple que forment ses parents va se déliter sur fond de crise économique.
Mom, is Dad okay?
Of course he is.
You lied to me.
His pride got hurt. That happens sometimes.
I'm hurt.
He's been out of work before, and he always finds his way.
Down deep inside of me. You said your love was true. And we'd never, ever part. Even though you hurt me like nobody else could ever do.
If you've got a better plan for me, tell me.
I would never.
I'll try it.
Ever.
Maybe it'll be better than this.
Wildlife de Paul Dano, d'après le roman de Richard Ford. C'est Julien Gester qui va commencer à nous en parler.
Je me suis approché de ce film avec une certaine méfiance, je dois dire, parce que ça tient essentiellement au matériau. Je trouve que on est dans une époque qui entretient un rapport à cette matière-là, à la fois américaine et même, enfin, en tout cas occidentale, visuelle, tout un imaginaire à la fois qui tient à la fois du mobilier, à des couleurs, une certaine photographie, qui tape dans le mille peut-être d'un certain imaginaire visuel contemporain. Et d'une certaine photogénie contemporaine, ça c'est le jeu des cycles, du rétro, des revivals, etc. Et j'avais un peu le sentiment qu'on avait peut-être épuisé un petit peu cette matière-là, en tout cas sur un versant qui est celui de l'endroit, c'est-à-dire de camper quelque chose malgré tout d'une norme, et qu'il y avait peut-être plus que des histoires, même si c'était un territoire, un versant, celui de l'envers, qui a été beaucoup rebattu par tout un tas de films, et même très tôt, peut-être on peut dire notamment par exemple par le Firewalk With Me de David Lynch, qui à l'époque, je pense, était pas qui avait pas très bien marché d'ailleurs, précisément parce que je pense qu'il était encore asynchrone justement d'une certaine photogénie, un certain rapport un peu Eggleston-ien peut-être à la manière de filmer l'Amérique, etc. Et qui aujourd'hui, quand on le redécouvre, je pense à la faveur de la troisième saison de Twin Peaks, on a vu quand le film est réédité en Blu-ray, etc., qu'il est pas du tout accueilli de la même manière. Et je pense que ça tient à une compréhension meilleure peut-être du film, mais aussi avec quelque chose d'une peut-être meilleure synchronie avec avec ce qu'on peut comment on reçoit ces images là de cette manière là de filmer l'Amérique. Et j'avais un peu peur de ce premier film d'acteur qui aurait pu être un objet un peu académique, un peu décoratif, et repartir de cette image d'une forme de famille modèle américaine d'après-guerre, évidemment ni pauvre ni complètement pauvre ni du tout riche, mais qui a priori est là pour être heureuse, incarner une forme de bonheur domestique climatisé, et puis soudain apparaissent quelques lézards, et puis bon, le film à la fois n'est que ça, et en même temps je trouve qu'il l'est avec une grâce absolue qui réside dans son projet, et ce projet il se donne très littéralement par le dernier plan du film qu'on ne décrira pas forcément, mais on peut dire que en gros, ce projet, au fond, c'est un art du portrait. C'est se livrer à un art du portrait. Et je trouve que toute la beauté du film tient là-dedans, dans sa capacité à choisir de beaux acteurs sans les livrer à des poses où ils se trouvent nécessairement beaux, de pas forcément les habiller, comme des mannequins d'époque, même si on les met dans des décors qui sont évidemment tirés à quatre épingles, très bien photographiés, très décorés, très très éclairé, etc. Et en fait, à partir de là, de leur livrer des personnages dont j'ai absolument toujours le sentiment qu'ils sont vivants, en fait. On a affaire à des stéréotypes auxquels on va redonner la vie. À partir, je vois agiter la tête.
C'est comme moi, agite beaucoup la tête. Mais quand les autres parlent.
Je trouve qu'il y a quelque chose d'absolument à la fois très élégant qui est une forme de générosité vis-à-vis de ces personnages dans la manière de les capter, et en même temps quelque chose de réellement pulsatile sous la vignette, sous la figure de mode, la gravure qui vibre dans la plupart des scènes. Je ne sais pas comment vont vivre ces personnages, mais j'ai absolument l'impression toujours de les voir incarnés, singuliers, uniques. Voilà.
Alors Lucille Comeau, Wildlife et vous?
Oui, je suis à peu près totalement en désaccord avec Julien sur ce film, que j'ai trouvé extrêmement lourd, moi, pour le coup. Et ça tient beaucoup, en effet, au portrait. Je trouve que les personnages sont totalement non convaincants dans leur capacité à vivre sous notre regard, et également sous le regard du personnage qui est censé être le relais, notre relais direct, qui est ce fils Joe, qui est totalement inconsistant. C'est-à-dire que c'est une pure surface qui est en effet notre accès au couple des parents, et donc à leurs disputes, à leurs désaccords, à la manière dont le couple évolue, et qui n'existe pas. C'est un personnage qui n'existe pas, qui n'a aucune cohérence affective, qui n'a aucun élan, ou alors il est une sorte de fils parfait qui accepte absolument tout, notamment de sa mère, parce qu'il accepte beaucoup. Moi, l'incohérence totale psychologique, pour le coup c'est très simple, de ce personnage m'a bloqué totalement, parce que comme on veut absolument, par des effets de mise en scène assez lourds, nous en faire un relais de manière systématique, je n'ai pas eu accès du tout au couple des parents. Et c'est vraiment très physique, c'est-à-dire que je n'ai pas eu accès du tout à leur relation, notamment le père dont on nous assène vraiment beaucoup à nouveau par des effets de mise en scène un peu lourds, que c'est un personnage sensible et mutique, avec une virilité problématique, et également la féminité problématique de la mère, m'ont paru d'un niveau de caricatural et très très lesté d'un million de références à un cinéma américain. Je pense des années 70. Enfin, moi, j'ai immédiatement pensé, en voyant cette grande séquence qui constitue le cœur du film, qui est censée être celle à laquelle on réagit le plus, j'imagine, qui est une séquence où la mère va retrouver avec son fils son amant, celui dont on devine assez vite qu'il est son amant, qui est un homme bourgeois qui la tient sous une coupe un peu perverse, on peut imaginer, et c'est une longue séquence de dîner qui est censée être extrêmement gênante, puisque le fils y assiste et assiste à toutes les manœuvres de séduction un peu maladroites que sa mère met en œuvre pour séduire l'homme. Moi, je vois une sorte de caricature de Jenna Rollands ou de ces grandes actrices-là des années 70, mais en raté. Et du coup, ça me pose même des questions sur ce qu'on a voulu nous représenter, à la fois de la féminité de cette époque-là et du couple de cette époque-là. Il n'y a rien d'authentique pour moi. Ce sont des portraits qui sont totalement, totalement artificiels. Bon, après, il y a d'autres choses que je trouve plutôt belles, dans le film, mais en tout cas, les personnages ne m'ont pas intéressé une seule seconde, ne m'ont pas ému, ne m'ont accédé à rien, vraiment.
Bon, Muriel Jodé,
à présent.
Non, c'est pour rebondir sur ce que dit Lucille, sur le fait qu'en fait le film nous assène le fait que toutes les scènes sont vues à partir depuis le regard de Joe, le fils. Ça me rappelle un autre film qui parlait des années 60, enfin se situait dans les années 60, c'est Carole de Todd Haynes, qui était aussi un film sur un regard, une jeune femme qui en regardait une autre. Et c'est pas anodin que ça se passe dans les années 60, parce que j'ai l'impression que faire un film dans les années 60, c'est évidemment forcément faire un film sur les années 60, et plus particulièrement sur l'imaginaire des années 60, c'est-à-dire les photographes qui ont pris en photo l'Amérique des années 60, ont presque, comment dire, leurs photos ont presque obscurci l'image, la vérité qu'on pourrait avoir de ces années 60. Donc on passe toujours par le filtre de ces photographes, et on ne peut pas faire un film sur les années 60 de façon innocente. On passe toujours par Eggleston, Saulhaeter, enfin tous ces photographes. Et ce qui était assez beau dans le Todd Haynes, c'est que précisément il faisait un film sur l'imagerie, sur ces photographes et sur une jeune fille qui voulait être photographe. Alors, le Wildlife échappe en partie au côté imagerie figée, au côté reconstitution. Peut-être parce que déjà, on est dans une sorte de classe moyenne un peu paupérisée ou qui en voie de paupérisation. Mais y a quand même le côté panoplie. C'est-à-dire que, comme le rappelait Julien, le rapport à la normalité, le rapport à la conjugalité, tout ça est pris dans plein de préjugés qui, selon moi, sont rattachés à cette décennie, et que ce soit à la fois le bonheur conjugal au début comme le délitement conjugal, j'ai l'impression que tout est sur des rails. J'ai l'impression d'avoir déjà vu 10 000 fois ce film. Alors le premier exemple qui me vient en tête, c'est Les Noces Rebelles, c'était de Sam Mendes, je crois. Et voilà, il y a plein de films qui me viennent en tête, plein de scènes qui me viennent en tête, comme si finalement, voilà, filmer cette décennie-là, c'était en passer par un certain type de récit, c'était raconter toujours un peu la même histoire, aussi, voilà, évoquer un peu Sirk, évoquer la culture de cette décennie-là. Et quand c'est censé un peu déborder, il y a le rapport, par exemple, aux incendies, au feu, qui revient comme ça, qui est très récurrent dans le film, quand c'est censé déborder, c'est traité selon moi de façon très sage. Et j'ai le sentiment de voir, alors je dirais pas un film d'acteur, même si c'est un peu ça, c'est-à-dire quelqu'un qui ne veut pas, qui pour son premier film ne déborde pas, ne dépasse pas. Oui, il y a une sorte de bon goût généralisé qui fait qu'à un moment, il y a un mélodrame qui devrait prendre et qu'il ne prend jamais. Et c'est selon moi le fait qu'on s'ennuie. Moi, je m'ennuie beaucoup parce que, en fait, je m'ennuie à partir du moment où Jake Gyllenhaal disparaît. Et c'est assez intéressant puisque même la famille, en tout cas la mère esselée et son fils, s'ennuient aussi. Donc on s'ennuie avec eux. Et donc ça, c'est assez efficace et intéressant de le constater. Mais le problème, c'est que Jake Gyllenhaal lui-même, grand acteur, est totalement sous-exploité. Et moi, j'ai eu un gros problème aussi avec Carey Mulligan, qui est une actrice à la fois très attirante, mais il y a quelque chose physiquement qui me révulse, qui me dégoûte un
carrément.
Peu.
Carrément.
Et ben, j'ai l'impression que quand elle doit rien jouer, quand elle doit être dans une sorte d'underplaying, alors je sais pas comment on traduit ça en français.
Sous-jeu.
Oui, ben voilà, parfait.
Ouais. Quand, dans ça, une c'est sorte simple, de en fait.
C'est pas très
il y a le
beau.
Surjeu et le sous-jeu.
Oui, c'est vrai. De sous-jeu, elle est encore en train de surjouer. C'est une impression très bizarre qui fait que quand même, elle porte le film, elle porte quand même bien une heure du film, et je suis avec elle, je dois la regarder, je n'y arrive pas.
Bah vous oubliez le jeune garçon quand même.
Le jeune garçon,
beaucoup.
Alors je suis d'accord avec Lucille, il n'existe pas, c'est un pur regard, c'est un pur regard, et ça amène ce dernier plan. Alors Paul Dano en interview dit que...
Bon, on ne va pas en parler du dernier plan, on ne va pas le révéler
non, mais
ici.
Paul Dano a dit qu'il voulait faire ce film pour ce dernier plan, et ça se sent très fort en fait. Ça se sent très fort que... C'est comme si tout le reste était désinvesti et convergeait vers ce plan, et ça pose problème, parce que c'est vrai qu'il est très émouvant, mais il y a 1h35 ou 40 à gérer juste avant ce dernier plan qui est émouvant.
Bon, alors moi je suis assez en désaccord aussi avec Muriel Joudet, comme ça, ça contrebalance un peu les choses. Moi je trouve qu'il est très contemporain, ce film sur les années 60, parce qu'on n'a pas parlé du chef opérateur Diego Garcia, quand même, notamment le chef opérateur de Cemetery of Splendor de Happy Japan Veracity Cool, mais aussi d'un film de Carlos Regadas dont j'oublie le titre là tout de suite. Enfin, c'est pas n'importe quoi, et que ces références sont des références très contemporaines. C'est Gregory Crutzen, très évidemment, pour toutes les scènes extérieures, surtout de nuit. Et puis quand même aussi un peu Jeff Wall pour les scènes intérieures. Donc ce sont des photographes que je trouve assez géniaux l'un et l'autre et qui sont toujours très en activité. Alors parfois c'est un peu trop ressemblant même, surtout Gregory Crutzen, c'est très marqué, mais j'avoue que j'ai une assez grande mauvaise foi là-dessus puisque je trouve ça tellement beau que malgré tout ça me fait moins de l'effet. Mais surpris que vous n'ayez pas cité un autre nom qui est le Clint Eastwood à l'époque où il faisait des bons films, à l'époque pour moi très ancienne, parce que ça fait très longtemps que je trouve que Clint Eastwood fait des mauvais films, mais je trouve qu'il y a, vous parlez d'une absence quasiment de mise en scène, moi je trouve qu'il y a une mise en scène qui est au contraire une forme de classicisme assez sec et assez élégant, qui me rappelle les bons films de Clint Eastwood, il y en a beaucoup, hein, pour moi, donc ça je trouve que c'est plutôt des options de mise en scène plutôt qu'une absence de mise en scène, mais l'autre grand enjeu, quand même, sur lequel je voudrais revenir, c'est la question de l'adaptation, parce que moi, Richard Ford, c'est aussi un écrivain que j'aime énormément, et je me demandais, pour le coup, j'allais reculons un peu pour ça, me disant comment transcrire, s'attaquer à une écriture pareille, et je trouve que il y a quelque chose d'une angoisse ouatée, qui est très présente chez Ford, de ce regard d'enfant, que moi je trouve existe, mais c'est peut-être... peut-être parce que j'ai beaucoup lu Richard Ford et que c'est beaucoup le regard du petit Richard Ford. Enfin, les romans sont pour une bonne part très autobiographiques chez lui. Et je trouvais que ça, du coup, ça a fonctionné. Alors peut-être que c'est parce que j'en ai beaucoup lu que ça m'a peut-être plus parlé que vous. Mais moi, je l'ai vu exister, ce petit Joe. Et de fait, même si la scène finale est très belle, c'est pas la seule qui m'est émue. Je trouvais très beau, effectivement, quand la mère et son fils partent voir le feu, cette façon dont la mère perd tout filtre et elle parle à son enfant comme s'il était un adulte. Enfin, il y a quand même des choses très, très fortes. Et ce que je trouve le moins réussi, pour le coup, c'est la scène dont vous parliez, l'usine Como, cette scène centrale qui est censée être, donc, selon vous, l'acmé du film et que je trouve plutôt beaucoup moins réussie. Oui. Réactions diverses. Lucille Como.
Juste, alors même que le personnage qui est peut-être le personnage secondaire de ce film, qui est interprété par Bill Kemp, donc de cet amant, est à mon avis le personnage le plus intéressant et l'acteur qui s'en sort le mieux.
Il m'a pas intéressé du tout.
Ah, mais moi
voyez,
je trouve que vraiment au moins il échappe un petit peu. Il échappe un peu à un carcan à la fois social de point de vue sur les
comme
personnages
ça, on reste
qui les écrase.
Désaccord.
Ah, moi je suis très d'accord avec Muriel sur Carey Mulligan. Je la trouve vraiment. Je trouve qu'elle dessert tellement le personnage.
Non, elle m'intéresse moyennement et par contre j'ai jamais vu Jack Gyllenhaal le si beau. C'est la première fois que je vois qu'il est beau, cet homme-là. Non, mais c'est la première fois que je le vois comme ça. Mais vous voulez réagir là-dessus ?
Oui, sur l'amant veuf, moi je trouve qu'on lui donne absolument pas sa chance. C'est quand même quelqu'un qui on aurait pu creuser ce personnage et on le voit têter son cigare et on nous fait comprendre que c'est un gros dégueulasse.
Non, justement,
vieux,
c'est pas trop.
Qui,
moi, je suis pas d'accord.
Qui couche avec
vous êtes
cette
d'accord,
belle jeune
mais pas
femme.
D'accord. Hein,
moi, en fait, ça m'a vraiment choqué que ce personnage n'existe pas, qu'il est filmé comme. On attend vraiment de le voir filmé comme ça, alors qu'il aurait pu avoir une scène où on voit que c'est quand même quelqu'un en souffrance, qui a de l'argent mais qui est seul, qui est veuf. Et peut-être pour rebondir... Non mais...
Ça fait rire Lucille Cobon. Voilà, je traduis pour les auditeurs et auditrices.
Et sur le rapport au photographe, c'est exactement ça le problème du film et des films sur les années 60 en général, c'est que c'est du cinéma photographié. Comme il y a du cinéma filmé ou du théâtre filmé, voilà, tous ces termes qu'on a inventés, que la critique a inventés, il y a aussi le cinéma photographié et le Carol de Todd Haynes jouait sur ça. C'était
vrai que
film.
C'est pas de Carol qu'on parle ce soir, ouais. Hein, vous avez compris.
Merde,
c'est Wildlife en fait de Paul
pour
Dano.
Pour moi, c'est vraiment deux films qui résonnent vraiment.
Ouais, pour moi non. Mais je vois ce que vous voulez dire, hein, mais pour
mais
moi,
c'est
ils
vraiment
sont extrêmement.
Cinéma, on peut pas échapper à tous ces photographes. Qui nous ont barré le contact aux années aux 60.
Je ne suis pas d'accord avec vous, mais bon, je laisse la parole à Julien Gester.
Non, mais je vous rejoins en un sens aussi là-dessus, parce que c'est vrai que le parallèle avec Carol est, je trouve, pour le coup pertinent, précisément là-dessus, sur ce rapport-là, justement, à cette photogénie presque problématique de cette période telle qu'on la dépeint au cinéma. Et clairement, le choix du chef opérateur, les choix du chef opérateur, à la fois le choix d'aller vers Diego Garcia et les choix que lui fait, justement, en faisant tendre ça vers de la photographie à la fois ancienne et contemporaine vont dans ce sens. Mais il vous aura pas échappé justement que ce dernier plan et ce gamin lui-même est photographe, enfin aspirant photographe. C'est tout le jeu du film. Moi je ne vois pas cette incohérence de ce personnage dont vous pointiez tout à l'heure Lucille Comeau.
Ah, c'est même pas de l'incohérence justement.
L'inconsistance,
à la limite, l'incohérence m'intéresse.
Oui,
là c'est juste de l'inconsistance.
Moi je vois un parti pris du film, un endroit de quelqu'un qui est en train, un personnage qui est en train de s'inventer, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas ce qu'il va devenir et ce n'est pas le sujet du film. Mais qui est vraiment utilisé pour le coup par le film comme littéralement presque une plaque photographique sur laquelle va s'impressionner le délitement du couple de ses parents. Et à partir de là, je trouve que le film non seulement fonctionne, mais qu'on a besoin au fond de ce que vous désignez comme des clichés, comme des stéréotypes, parce que ce que le film raconte, et particulièrement à l'endroit du personnage de Carey Mulligan, qui est pas une actrice qui me passionne, mais dont je trouve qu'elle accomplit absolument le trajet de manière intéressante qui est le sien, dans le film, c'est comment à un moment donné on a une silhouette qui est tracée, justement on a un cliché et ce personnage va le déborder quelque part. Et c'est tout l'enjeu à la fois du romanesque très minimal de ce film, mais de romanesque quand même, c'est qu'à un moment donné, de partir d'une figure tracée, d'un contour, d'une silhouette, et que ça déborde jusqu'à ce que d'ailleurs les personnages quittent, quittent le film les uns après les autres. Et pour le coup, c'est je vous rejoins Arnaud Laporte, vous avez employé ce mot de classicisme, c'est toujours un peu délicat aujourd'hui.
Oui.
Enfin, mais c'était la problématique des films d'Eastwood et de leur réception dès les premiers, dans les 70, 80, de poser la question, qu'est-ce qui relève du classicisme, qu'est-ce qui relève de l'académisme? Au fond, c'est le langage est le même, la question, enfin, les plans souvent sont les mêmes, et la question, c'est à quel point ils sont habités. Moi, je trouve qu'ils le sont absolument dans ce film-là.
Bon, nous sommes encore une fois d'accord, Julien Lester, on va commencer à s'inquiéter. Wildlife de Paul Dano est sorti sur les écrans la semaine dernière. Nous allons parler dans cette émission de L'Homme fidèle, du retour de Mary Poppins et de Roma.
La dispute, France Culture. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec L'Homme fidèle, un autre long métrage réalisé par un autre comédien. Là, c'est le deuxième de Louis Garrel. C'est sur l'affiche, il me semble qu'une citation d'article parle de trouble. Il me semble quand même plus judicieux de parler de quatuor, puisqu'il y a un homme, deux femmes et un enfant. L'homme, c'est Abel, que Marianne a quitté, qu'elle retrouve 10 ans plus tard, alors qu'elle est mère d'un enfant, Joseph. L'autre femme, c'est Ève, la tante de Joseph, amoureuse d'Abel depuis sa propre enfance.
J'ai vu la sœur de Paul comme elle a changé.
Qui ça?
Je suis Ève, la sœur de Paul.
Oh là là, écoute. Ah oui, je sais pas, peut-être. Ouais.
Au cimetière, elle te lâchait pas des yeux.
Je voudrais Abel. Au fond, tu l'aimes pas. Alors je te le demande, laisse-le-moi.
Et si moi je te dis non?
Alors c'est la guerre. Tu t'entends bien avec Abel, toi?
Abel, je l'aime pas. Parce qu'il a volé ma mère.
Qu'est-ce que tu racontes? Et comment elle a fait?
Avec du poison.
Est-ce que je te plais?
De quoi tu me parles, là?
Et si tu faisais l'amour avec elle? Je sais très bien qu'elle t'attire.
Si je couche avec Ève, est-ce que ça veut dire que je dois vivre avec elle?
Bah, ça m'en a tout l'air.
Ah non, 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 ça c'est parce qu'elle m'a dit de prendre quelques affaires, tu vois.
Il paraît que tout le monde un jour a eu envie de tuer quelqu'un.
Toi par exemple, t'as déjà eu envie de tuer quelqu'un?
Oui, toi.
Encore un bon exemple de bande-annonce qui met de la musique qui n'a rien à voir avec le film, qui lui-même est très peu pourvu de musique. Bon, saluons les fabricants de bande-annonces. Il faudra faire un vrai petit salon un jour là-dessus, Lucille Comeau. D'ailleurs, c'est vous qui commencez à nous parler de L'Homme fidèle de Louis Garrel.
Oui, alors c'est un film qui joue à fond un jeu qui est celui, pour le coup, on en parlait hors antenne, d'un entre-soi, bourgeois. On a un premier plan sur la Tour Eiffel et puis très vite la caméra se penche et puis on entre à l'intérieur de l'intimité d'un appartement haussmannien. Et donc on est dans un film d'héritier qui s'assume à plein, ce que je trouve assez habile comme manière d'entrer dans un film de la part de Louis Garrel. Et donc en effet, vous le racontiez, ce sont des jeux amoureux, un film qui est assez léger par son économie. On est tout le temps à peu près dans les mêmes lieux, entre une rue parisienne et un appartement, avec des scènes qui se répètent beaucoup. Il y a un jeu sur les répétitions des scènes qui rythment totalement le film. Et cet homme qui est baladé entre les stratégies de deux femmes, Ève et Marianne. Évidemment, les noms sont absolument sursignifiants. Et également Paul et Abel, qui ont des prénoms qui font partie aussi du cinéma de Desplechin, qui est d'ailleurs cité à la fin du générique du film. Donc on a affaire à un jeu très cérébral, assez froid, totalement dénué de sensualisme. On en reparlera peut-être, ce que je trouve assez intelligent aussi quand on a choisi de telles actrices comme Laetitia Casta et Lily Rose Depp, et qui, à mon avis, actualise à peu près parfaitement ce qu'est le marivaudage littéraire, enfin la forme littéraire du marivaudage, qui est un dispositif extrêmement ludique, donc que met en place le jeu à partir du moment où une des femmes préconise à à Abel d'aller voir l'autre pour voir ce que ça fait. Ouais. Et ce qui est totalement une forme du marivaudage. Et également, qui supporte assez bien dans sa construction et dans sa mise en scène, une forme de circulation des désirs, une circulation des enjeux et des rapports de pouvoir entre les personnages, qui est matérialisée notamment par le fait que la voix off circule entre eux trois. Moi, je trouve que c'est un très beau film. J'ai beaucoup aimé le film. J'avais beaucoup aimé le premier film de Louis Garrel. À chaque fois, je suis assez surprise et puis j'ai même du mal à le dire. Je sais pas pourquoi. Mais je trouve ce film vraiment très réussi. Bon. Voilà. Et je trouve que ça tient à un art du dialogue que je trouve rare dans les films français. Je les trouve très délicats, très subtils, ces dialogues-là. Voilà, beaucoup aimé ce film.
Bon. Alors, Muriel Jodé a proposé de rebaptiser Microcosmos.
Oui. C'est Lucille qui a suggéré l'idée. Ce serait super.
Enfin, ça serait assumé.
Alors, non, mais après, il y a deux choses. J'aime beaucoup Louis Garrel, acteur. Je pense que c'est un très, très grand acteur qui arrive à se sortir d'à peu près toutes les situations, c'est-à-dire, par exemple, Le Redoutable d'Adana Bissus. Il arrive quand même à se rendre aimable, même dans des films pareils. Voilà, ça c'est dit. Et l'entre-soi ne me dérange pas.
Ça va loin, ce propos, mais bon, vous l'assumez vous aussi.
C'est un grand acteur qui devrait rester acteur. Et l'entre-soi ne me dérange absolument pas. Moi, c'est ce que j'adore. J'adore Eustache, j'adore Garrel. Donc, je pose quand même ces bases-là. Après, j'ai l'impression, ça me fait souvent ça dans les acteurs qui se lancent dans la réalisation, de voir un acteur qui joue ses plus grands tubes. Et on se demande pourquoi il essaye de faire exactement les films, alors qu'il joue déjà dans ses films. Il y a du Desplechin, il y a du Christophe Honoré, il y a du Philippe Garrel. Donc il y a tous ces cinéastes-là, ils jouent dans ces films et ils jouent extrêmement bien, il est toujours incroyable. Et là, on a l'impression que presque par une sorte d'émulation bizarre, ce que je peux comprendre hein, quand on est acteur, c'est normal de vouloir devenir réalisateur, hein, c'est presque une... Bah oui, Paul Dano, enfin il y en a plein, c'est presque une sorte de c'est presque logique. Après, le film a beaucoup plus de tenue que le précédent, de par sa durée, c'est-à-dire qu'on est sur 1h15, hein, c'est du Hong Sang-soo, et bien sûr de
par... Un long Hong Sang-soo.
Voilà. Et donc, il ne peut que se tenir sur 1h15, et encore. Et la deuxième chose, c'est évidemment Jean-Claude Carrière, qui vient à la rescousse et qui a écrit le scénario avec Florence Cévos et Louis Garrel. Mais quand même, Jean-Claude Carrière. Et on retrouve un peu de son écriture, on la devine, on sent que c'est lui qui porte le film. Et il y a des très belles choses, comme il n'y a jamais d'obstacle dans le film, c'est ça qui est très beau. Dès la première scène, on se rend compte que la moindre vexation, le moindre drame amoureux est toujours accepté. Il n'y a que des accords à l'amiable, il n'y a pas de drame. Il n'y a pas de couple qui crie, et ça c'est très beau. Et il y a un côté presque onirique, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être dans un rêve, et là on pense à Buñuel. Alors Jean-Claude Carrière n'a pas écrit que pour Buñuel, mais du moins les Buñuel coécrits avec Carrière ont cette touche onirique qu'on retrouve un peu dans le film. Et puis cette ligne claire, c'est-à-dire qu'on ne va pas surpsychologiser les enjeux, et on est précisément dans un jeu. On a l'impression que chaque personnage ne veut que jouer, ne veut que s'amuser. Et c'est un peu le problème de Louis Garrel. J'ai l'impression qu'il profite de la solidité et de la beauté de son scénario pour ne pas faire son film. Et je parlais de ses plus grands tubes. J'ai vraiment l'impression d'un medley, au sens où dans le medley, il y a les refrains, mais il n'y a pas les couplets. Et le film manque de couplets, il manque de consistance, de gravité, pas au sens où la gravité viendrait s'opposer à la légèreté, mais au sens où il faut un moment que les personnages s'incarnent. Moi, je vois juste un acteur cinéaste qui veut tourner pour le plaisir avec sa femme, avec une fille qu'il désire. Hein, ça se voit qu'il l'aime et qu'il désire Lily Rose Depp, et qui s'entoure comme ça de gens qu'il désire, de femmes qu'il désire et qui sont extrêmement belles, mais qui oublient de faire un film au bout du compte, et ou en tout cas qui délègue le film à Jean-Claude Carrière. Donc voilà, medley, refrain, pour moi, c'est vraiment que ça. Et je trouve aussi que le film est très artificiel, et là encore l'artificialité peut produire, peut créer de la vérité, mais là cette vérité n'advient jamais dans le film.
Bon, deux avis assez opposés, celui de Géa Gester.
Non, mais j'étais assez séduit, à vrai dire, mais je pense qu'il y a vraiment, il faut arriver à décortiquer, vous avez commencé à le faire... Muriel Jodé, il y a un peu trois films qui se présentent à nous. Enfin, il y a un premier qui faut presque, dont il faut dissiper les effets aussi vite que possible, qui est celui du marketing qui entoure le film, la bande-annonce en participait un petit peu tout à l'heure, il y a l'affiche, enfin toute la manière dont le film se présente à nous, le vent comme une nouvelle écume du triangle amoureux à la française, à la nouvelle vague, etc., qui était déjà un peu le cœur du précédent film de Louis Garrel et qui se donnait déjà comme un film de reprise, comme un film qui jouait sur l'artifice, sur la question de refaire ce qui a déjà été fait tant de fois, de rejouer sur des schémas épuisés. Et pour le coup, le film, vous l'avez dit, c'est pas tant un trio amoureux, c'est qu'un quatuor, voire un quintet, puisqu'il y a une place qui est importante dans le film, qui est presque celle, alors qu'on circule par le jeu des voix off, d'un point de vue à l'autre, dans le film, à travers le récit et le scénario que vous décriviez, on circule d'un point de vue à l'autre pour achouer à une place qui est pas loin d'être à la fin de la place du mort, finalement. Et c'est ça, c'est cet endroit-là qui s'installe peu à peu dans le film, qui est d'abord oublié, puis qui ensuite le regagne, et avec pour relais un enfant, qui est, je trouve, un très beau personnage, qui justement, vous parliez de cette légèreté absolue du film, je trouve que c'est pas tout à fait juste, au sens où le film opère un peu cette inversion des polarités, qui est que le monde adulte, normalement, serait un monde de gravité, alors que l'enfance serait le lieu de la légèreté, et ici, c'est des polarités qui s'inversent totalement, puisque c'est cet enfant qui apporte une gravité, qu'on peut juger un peu factice, un peu artificielle, un peu fantaisiste, mais qui est réel et qui, je trouve, qui gagne progressivement le film sans l'assommer à aucun moment. Et qui nous reconduit à cette place, finalement, du père de cet enfant, qui est cette place du mort. Et donc ça, c'est, je trouve, le schéma, en tout cas, du deuxième film, qui est clairement le film du scénario. Et ce scénario, vous l'avez dit, qui est très marqué par l'écriture, par la patte de Jean-Claude Carrière, qui est quelque chose, enfin, une identité d'écriture, dont je trouve qu'elle n'est pas forcément toujours bien vieillie, à la fois sur certains films que l'on revoit, pas forcément ceux de Buñuel, mais d'autres qu'il a pu écrire dans les années 70 ou 80, ou même certaines collaborations qu'il a pu avoir au cours des 10 dernières années. Là, je trouve que ça donne au film une fantaisie, une légèreté, un panache qui tient beaucoup, en effet, comme vous l'aviez dit à Maurice Jodet, à cette absence de conflit, en fait. C'est très rare, et je trouve assez précieux pour un film de se présenter absolument dénué de conflit. Et surtout, ça donne une tonalité au film qui, je trouve, donne une forme d'allant aux acteurs par le fait qu'ils n'ont pas du tout à jouer des choses qu'on leur fait jouer actuellement. Et je trouve tout le monde très bon, d'ailleurs, dans le film, à la fois parce qu'ils sont bien filmés, parce qu'aussi, et on en arrive au troisième film, je trouve qu'ils sont dirigés dans le sens de ce scénario par Louis Garrel, c'est-à-dire dans le sens d'une forme d'absurdité légère, au fond, d'une forme de surnaturel léger qui déjoue ce qui pourrait se jouer d'un peu de petit théâtre bourgeois naturaliste entre les quatre murs qui sont quand même le décor principal de cet appartement et qui nous emmène en effet vers quelque chose qui, moi, j'appellerais peut-être moins le rêve, même si le rêve peut avoir ce mélange de crudité, d'étrangeté qu'on peut retrouver là, mais vraiment d'absurdité au sens premier, c'est-à-dire à un moment donné où les lois presque qui régissent le monde, celle de la, notamment de la gravité, et là qu'on peut prendre dans le sens le plus vaste du mot, en fait, on serait dérangé, aboli, ou auquel on serait sourd.
Alors, c'est vrai que moi, je n'ai pas vu le premier long métrage de Louis Garrel, mais j'avais un très bon souvenir du Petit Tailleur, qui était un de ses courts métrages. Vraiment, j'avais trouvé très réussi. Pour moi, c'est une belle surprise que cet homme fidèle, parce qu'il me semble qu'il déjoue quand même pas mal des pièges des films sous influence, parce qu'il reste pas du tout collé à cet effet marketing dont vous parliez, Nouvelle Vague. Même, bon, il y a une influence, pour moi la plus notable, c'est Truffaut sous influence Hitchcock, donc ça fait deux couches qui sont déjà quand même pas inintéressantes. Mais moi, je vois un vrai cousinage avec Emmanuel Mouret pour ce marivaudage très contemporain, cette qualité d'écriture aussi. Bon, c'est évidemment un compliment quand je le dis. Mais moi, c'est vrai que c'est le directeur d'acteur qui m'a le plus impressionné, parce que Joseph Engel, le petit garçon, je trouve très très inquiétant, très beau aussi, très étrange. Enfin, et effectivement, avec cette gravité, j'ai jamais vu Laetitia Casta aussi bien jouée, aussi incarnée. Lily Rose Depp, je l'ai peu vue, mais il me semble qu'elle est quand même très très bien utilisée ici, dans cette sorte de dingue, enfin, qui caractérise tous les personnages. Mais j'étais surtout content de voir Louis Garrel lui-même dans ce... Alors, j'ai pas vu toute sa filmographie, contrairement à vous, sans doute, Muriel Jodet, mais ce côté personnage passif, manipulé, malléable, c'est une sorte de culbuto entre ces deux femmes, et avec un talent comique quand même assez indéniable, et je trouve qu'il l'utilise fort bien. Donc c'est vrai que pour moi, c'est une belle surprise. Moi, je l'ai vu seulement il y a 2 ou 3 jours, mais c'est un film le charme a opéré sur moi. Mais nos trois avis plutôt positifs
Ne vous bouscule pas, Muriel Jodé.
Non, mais je comprends. Il y a plein de... Le film a énormément de charme, mais c'est un peu ce que je pense de Christophe Honoré. Je vois les belles idées, les belles femmes aussi, les belles situations. Tout est,
oh,
tout est
à sa place. Ça n'a pas grand-chose à voir.
Parce que, enfin, pour moi, c'est une sorte de vitrine de film français, et j'ai l'impression que dans cette référence à Truffaut, Louis Garrel a gardé le pire. C'est-à-dire, vous savez, cette phrase que je vais vraiment déformer, mais le cinéma, c'est faire de belles choses à de belles femmes.
C'est faire de belles choses.
Faire de belles choses. Bon, les deux. Hein. Ouais. Ça marche. Et pour moi, c'est vraiment une des pires phrases qu'on puisse sortir sur le cinéma, qui est à la fois juste, vrai, mais se contenter de ça pour faire un film. Mais et c'est pour eu. Moi, je vois que ça. Je vois l'érotomane. Oh, c'est vraiment. C'est et ça peut être pas mal, hein, mais c'est super d'être érotomane et de faire des films.
Nous trois ne voyons pas ça, visiblement.
Prenons l'exemple de Lily Rose Depp. Elle est utilisée comme une sorte de corps burlesque. Enfin, moi, je la vois pas du tout comme un.
Pas désirable.
Ah non, pas du tout.
Elle
a une sorte de voix suraiguë qui joue. Enfin, pour moi, c'est un personnage vraiment. Purement burlesque. Mmh. Et en fait, ce sont des mécaniques qui sont en grande partie comiques. Laetitia Casta aussi, je pense. Là, cette première scène où elle raconte, elle déballe tout à Louis Garrel sur le palier qui revient à plusieurs reprises. Moi, je vois un pur corps, comme quand on monte un bon Marivaux au théâtre, une sorte de pure instance comique dont le corps ne sert qu'à enclencher une mécanique du ludique, quoi, vraiment.
Je vois deux bombes atomiques, c'est tout. Enfin, elles sont extrêmement belles, elles jouent très bien, mais je suis sidérée pendant 1h15 par leur beauté.
Julien Jester.
Oui, mais parce qu'elles sont très bien filmées, etc. Mais c'est pas, je trouve pas du tout qu'on les filme comme des mannequins, ou pour le coup, Lily Rose Depp, on peut le mesurer. Moi, je trouve que c'est la première fois qu'on la voit actrice, qu'on la découvre absolument actrice. C'est-à-dire qu'elle a pu être très bien.
Zlotowski a joué bien.
Elle a pu être très bien, notamment, je trouve, dans le film de Rebecca Zlotowski, mais ou dans les deux, trois fois, je trouve, où on l'a vue jusque-là, elle était là presque comme un fétiche dans lequel il fallait retrouver quelque chose de son ADN et démêler les gènes de ses parents. Et elle avait quelque chose d'une photogénie, d'une présence qui était absolue, mais c'est la première fois qu'on la voit vraiment absolument comédienne, actrice, et excellente comédienne. Et ça, c'est déjà une réussite du film, et qui dit quelque chose de ce que le film fait faire à ces actrices, justement, que vous désignez quasiment comme des potiches agissantes.
Non, pas potiches. Bon, Atomique, c'est pas potiche. Elle joue très bien. Moi, je suis fascinée. Et justement,
mais
je le trouve
peut-être. Vous parlez d'un film d'érotomane, moi, je vois pas du tout ça non plus.
À chaque fois qu'il se marie ou qu'il a une copine, Louis Garrel fait un film, il y a un côté.
Le seul, hein, la liste
non,
est longue.
Non, mais c'est pas du tout un reproche. On peut faire du cinéma. Truffaut était érotomane. Il désirait Adjani, il lui a écrit un film. Donc, on peut faire des films pour ça, il n'y a aucun problème. Mais même, il faudrait limite que ce soit beaucoup plus assumé.
Mais pour le coup, par ailleurs, je trouve que même ce que raconte le film, ce qu'il met en scène, va à l'encontre de ce que vous dites, au sens où il a un canevas de base qui est effrayant, qu'on ne veut plus voir, qui est cette idée d'un homme qui boudeur, que vont se disputer deux femmes en se donnant des coups de griffe, en se tirant les cheveux. Et là, c'est absolument pas du tout ce que le film met en scène. C'est-à-dire que on n'a ni affaire à une forme de séducteur fatal, même si on pourrait renverser la chose, et en se disant qu'en plus il ne fait rien pour séduire à ce point. Mais au fond, le personnage masculin ici est très peu agissant, et c'est absolument ces deux femmes qui tirent les ficelles, mais en même temps, en se faisant, il y a cette phrase à un moment dans le film en disant où Lily Rose Depp, enfin le personnage de Lily Rose Depp dit à celui de Laetitia Casta, mais alors si tu ne me le donnes pas, c'est la guerre. Mais de fait, cette guerre est une guerre absolument froide et machiavélique, tranquille, et qui pour le coup filme ces personnages féminins à l'endroit de leur intelligence et pas du tout à l'endroit d'un crépage de chignon qui pourrait vraiment être celui de ce canevas-là. Et le film a l'intelligence à la fois de casser, de court-circuiter le jeu du triangle en y ajoutant des personnages, en y ajoutant à la fois l'enfant et le mort, mais aussi de déplacer là où sont les forces agissantes dans ce schéma-là.
Dernier mot de Lucille Gaumont.
Oui, je pense que cette intelligence-là, elle prend quand même vraiment la forme de l'humour, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais de fait, c'est exactement ça qu'il met en place. En fait, il prend en effet toute cette matière du cinéma français dont vous parliez, Julien, qui est le triangle amoureux ou la nouvelle vague, des périodes, et il les regarde et il en enlève totalement la gravité jusqu'à ce que ça en devienne grave, à mon avis. Il y a un truc un peu paradoxal, que c'est parce que précisément on ôte toute la gravité et du coup toute l'humanité à ces personnages et à leur jeu que ça en devient grave. C'est vraiment ça qui m'intéresse, moi.
Non, mais je comprends tout, mais je vois des surfaces, Jean-Claude Garrière qui a fait le film, et Louis Garrel qui n'est pas à la hauteur, selon moi, du scénario. Voilà.
Qui l'a coécrit, par ailleurs.
Qui l'a coécrit, oui, mais quand on voit L'ombre des femmes, coécrit par Jean-Claude Carrière et qu'a réalisé Philippe Garrel, on voit la différence entre le père et le fils. Voilà.
L'homme fidèle de Louis Garrel sur les écrans depuis mercredi dernier.
Ah Ah, bueno, ah, pues qué día hoy. Son también, entonces me imagino. Cleo, no, hay que Sofía. Llevar los dos trajes del señor a la tintorería.
Sí.
Pero hoy, por favor, porque tiene que empacar porque se ve el viernes.
Sí, señora, yo lo hago.
¿Papá gracias. Se va de viaje?
Se va a Quebec, a un congreso.
¿Dónde es eso?
En Canadá.
¡Qué babuda!
¡Ey!
¡Hasta el
chino!
C'est le moment du coup de cœur de Lucille Como, et déjà je ne comprends rien parce que ça va parler espagnol, mais ça s'appelle Roma.
Ah oui, non, oui, ça n'a rien à voir avec
d'accord.
La ville de Rome.
C'est pas sur Rome.
Non, pas du tout.
J'essaie de ne rien savoir sur ce film que je n'ai pas encore vu d'Alfonso Cuarón et qui est disponible sur Netflix.
Oui, et qui ne fait pas totalement
je bouge
non
les oreilles,
plus battre mon
pas. Non, bon, allez.
Mais bon, on est en fin d'année, il n'y a pas non plus une offre cinématographique de dingue, donc bon, c'est en proportion de...
Allons-y, Roma.
Donc c'est un film mexicain, hein, pour le coup, du réalisateur qui fait partie un peu d'une clique, celle des Mexicains qui font des films à Hollywood, avec Iñárritu et Guillermo del Toro. On lui doit Gravity, Les Fils de l'Homme aussi, qui sont des films qui m'avaient laissé assez indifférente, je dois le dire. Là, le film arrive en effet, vous le disiez Arnaud, dans un contexte particulier, il a reçu le Lion d'Or de la dernière Mostra de Venise, et il est produit et distribué par Netflix, ce qui veut dire qu'en France, donc, il n'est pas distribué au cinéma. Et donc, c'est un coup de cœur qui commence quand même par un regret. On a déjà beaucoup évoqué ce sujet récemment, notamment à propos du dernier film des frères Coen. En l'occurrence, celui-là, je l'ai vraiment vu sur un petit écran d'ordinateur. Et là, c'est vraiment inadapté, parce qu'il y a un format très large. La mise en scène, elle repose sur des très très lents mouvements de caméra et beaucoup de travelling en extérieur. C'est en noir et blanc. C'est vraiment très dommage de le voir en petit écran. Je crois aussi qu'il y a eu un travail sur le son très particulier que moi je n'ai absolument pas perçu. Alors, qu'est-ce que Roma ? Donc, ce n'est pas la ville. C'est un film qui est assez long, dont le propos doit beaucoup à la vie même du réalisateur. On est dans les années 70, au sein d'une famille bourgeoise dans le quartier de Colonia Roma. Donc à Mexico. Le père est docteur, professeur dans un hôpital, la mère ne travaille pas, ils ont eu ensemble 4 jeunes enfants, ils vivent dans une belle et grande maison qui a une très grande importance dans le film, avec des domestiques, et c'est le point de vue que va choisir d'adopter le film, puisqu'on suit Cléo, une jeune femme d'origine indienne qui s'occupe à la fois du ménage et des enfants, et quand je dis qu'on la suit, c'est très littéral, puisqu'elle est presque de tous les plans, et la caméra s'attache à elle. Toute la séquence d'ouverture, par exemple, qui reviendra d'ailleurs à plusieurs reprises, la caméra tourne autour de la maison en empruntant des passages particuliers entre les chambres et entre les pièces du rez-de-chaussée pour la suivre. Ça donne des très très longs plans-séquences. Bon, c'est là que réside l'intérêt du film. En fait, mon coup de cœur est sans doute moins pour lui, le film, qui est quand même assez classique, qui ploie un peu encore sous les références, notamment au cinéma italien, aux grandes fresques familiales, et qui parfois, à mon avis, tombe assez facilement, et surtout presque en contradiction avec sa prétendue sobriété dans le pathos, que pour ce personnage-là de Cléo, et l'actrice qui se tient derrière lui. En fait, c'est un personnage qui a été inspiré directement par la bonne de la famille Cuarón de l'époque, et le film d'ailleurs lui est dédié. L'actrice s'appelle Yalitza Aparicio, c'est son premier film. Elle campe un personnage vraiment infiniment doux, à la fois omniprésent et très très difficile à saisir. Elle a très peu de dialogue. D'ailleurs, certains sont en espagnol, certains sont dans un dialecte indien. On la voit beaucoup en interaction avec la famille chez qui elle sert, chez qui elle est une spectatrice. C'est-à-dire que ça parle, on l'entendait dans le petit extrait, très fort, tout le temps, mais elle dit très peu de choses. Et même quand les conditions, parce que bon, il se passe quand même des choses au sein de cette famille, là, le drame arrive, feront qu'elle prendra plus de place, même quand elle est en congé, par exemple, et qu'elle est avec des amis, qu'elle a des relations amoureuses, elle reste très en retrait, très pudique. Moi, je pense que c'est un personnage très profond et juste. Donc, mon coup de cœur va en fait pour ce personnage qui contient presque, malgré le film, je dirais, une épaisseur politique, une subtilité que le film, sinon, échoue souvent à élaborer.
Voilà, un coup de cœur pour un personnage au sein de Roma, d'Alfonso Cuarón, à voir, hélas, selon Lucille Como.
Oui, je pense selon tout le monde.
Sur petit écran, à moins d'avoir un grand home cinéma chez soi, à voir donc
et
sur
un
Netflix.
Système de son.
France Culture, la dispute, Arne Laporte.
Allez, le dernier sujet de cette dispute, c'est le retour de Mary Poppins de Rob Marshall, un film que je n'ai pas vu. Autant de minutes de gagner. Dans le résumé peut, dans un premier temps, se lire tout entier dans le titre. Hein. Signalons que c'est Emily Blunt qui reprend le rôle tenu par Julian Drews, que c'est Rob Marshall, alors qui signera l'an prochain La Petite Sirène, à qui on doit notamment Chicago et Nine, qui dirige cette suite des aventures de la gouvernante.
Ah.
I honestly can't remember why we kept most of this stuff to begin with.
Don't you remember that kite? We used to love flying that with mother and father.
Those days are long behind me.
As I live and breathe.
Mary.
Poppins, you came back.
You seem hardly to have aged at all.
Really? One never discusses a woman's age, Michael. Would have hoped I taught you better. What brings you here after all this time?
Same thing that brought me the first time. I've come to look after the Banks children.
Us?
Oh, yes, you too.
We're about to lose our home.
Muriel Joudet, moi qui vous ai lu dans Le Monde, j'ai déjà un petit peu idée de ce que vous allez dire sur le retour de Mary Poppins, mais peut-être que vous avez changé d'avis depuis que vous avez rédigé cet article, allez savoir. Le retour de Mary Poppins, alors.
Oui, je suis encore plus méchante avec le film depuis que j'ai écrit cette critique. Non, mais en fait, c'est un projet qui était très prévisible de la part des studios Disney, qui depuis...
Qui ne devait pas faire le film, hein, c'était Harvey Weinstein qui devait produire.
Ah oui ?
Bah oui.
Ah, je savais pas.
Ah, j'ai une histoire, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le film.
Ça aurait été beaucoup mieux. Non, mais
bon. Et d'accord. Du coup, je ne sais pas pourquoi
ça
a été abandonné.
Mais
finalement, ça a été repris par Disney après d'autres pérégrinations. Mais
d'accord,
bon.
ça flingue un peu mon propos. Mais bon, en tout cas, ça fait.
C'était pas le but,
mais ça fait quand même des années que Disney refait des remakes en version live ou simplement des remakes de ces vieux succès qui m'ont bercé mon enfance. Mais même déjà enfant, Mary Poppins, je trouvais ça horrible. C'est pour moi, c'est vraiment la fin, ou c'est le chant du cygne de la comédie musicale. Il y avait ça, il y avait la mélodie du bonheur, c'était les comédies musicales familiales, très conservatrices, alors que le conservatisme, ça peut me plaire, mais là, c'est vraiment la grosse meringue. Et on peut comprendre qu'ils aient voulu réactiver Mary Poppins, parce qu'il y avait presque zéro prise de risque à réactiver Mary Poppins, ou en tout cas, d'un point de vue du récit, d'un point de vue des valeurs qui sont exaltées, rien n'a changé. On est toujours, en plus, pour voir à quel point le film est désuet, suranné, on est quand même à Londres pendant la Grande Dépression. En 2018, on fait encore des films sur Londres pendant la Grande Dépression, enfin des films Disney.
Oui, c'est possible.
Non, mais c'est possible. Mais pour moi, ça n'a absolument aucune résonance avec l'époque. En tout cas, quand c'est Disney qui s'en empare, ça n'a absolument aucune résonance. Donc le vieux fond de valeurs traditionnelles et conservatrices n'a pas changé. Mais ce qui change et qui est assez impressionnant, c'est évidemment la forme, c'est-à-dire qu'on est en 2018, on a fait des progrès en termes d'effets spéciaux, de numérique, et là vraiment il y a une sorte de pyrotechnie qui va dans tous les sens. Il y a qu'à juste regarder le dossier de presse pour se rendre compte ils misent d'abord sur les effets spéciaux, sur le nombre de costumiers, de costumes, de jours, ils racontent que des scènes ont été tournées sur 2 semaines, enfin c'est une liste de chiffres qui s'accumule et qui prouve qu'en fait le film n'appartient tout simplement pas à son réalisateur, qui est par ailleurs un très mauvais réalisateur, qu'à cette équipe de techniciens. Et il y a un écart, il y a une sorte de décollement qui est très symptomatique des films pour enfants, entre le récit qui est totalement désinvesti, qui n'a pas bougé depuis 1964, et cette forme qui est grandiloquente, qui parfois donne des choses très impressionnantes, comme ce moment qui a aussi plu beaucoup à Lucille, où Mary Poppins part avec les deux enfants, s'engouffre dans le motif d'une porcelaine pour aller la réparer. Et là, on est dans entre prise de vue réelle et animation, mais on reste dans de la 2D, puisque Rob Marshall explique qu'il voulait rester quand même plaire aux adultes qui avaient vu la première version et miser un peu sur leur nostalgie. Donc, il y a des moments comme ça de pyrotechnie, mais le récit n'existe pas, l'histoire n'existe pas. On a l'impression que, et ça je l'avais dit dans ma critique, qu'on veut en mettre plein la vue aux enfants, qu'on veut vraiment... les impressionner, mais il n'y a absolument aucune émotion. Les personnages ne sont finalement là que pour appuyer sur des boutons et déclencher
déclencher les effets spéciaux, déclencher les décors, déclencher les tableaux. Et les personnages du film, les véritables personnages du film, c'est à la fois les techniciens et les effets spéciaux. Pour le reste, personne n'existe, hein, je crois, à part Emily Blunt, qui arrive à se débrouiller dans ce truc infernal qui est d'incarner Mary Poppins, c'est-à-dire ce mélange de douceur et en même temps de fermeté, de sévérité, en même temps de « ah bon, on va aller au pays imaginaire ». Bref, c'est horrible à jouer, elle se débrouille très bien parce que c'est une machine, mais le film est, d'un point de vue narratif, totalement inexistant. C'est
moi, juste... ça peut faire un nouveau secteur dans les parcs Disney, j'imagine.
Non, ouais,
jouer à,
Maurice,
à Mary Poppins, non?
Non, je pense pas, parce que personne n'est intéressé par cette vieille nurse qui vole dans le ciel. Quoi. Enfin,
bah, arrêtez, elle n'est pas vieille.
Non, enfin, oui, elle est immortelle, donc elle n'a pas d'âge et tout ça, mais
elle pas d'âge.
C'est, le récit ouais, n'a votre absolument avis a changé, aucun en intérêt, et encore une fois, n'entre en résonance avec rien. Je pense que les enfants vont s'ennuyer d'un point de vue narratif, et c'est pas étonnant que Walt Disney ait racheté Pixar, parce que je pense qu'il, pour l'invention et comment dire, la capacité à régénérer l'imaginaire et les mythes, ils ont besoin de Pixar, mais que Walt Disney s'encroûte dans les vieux pots de confiture, et Mary Poppins, ce dernier Mary Poppins, est un peu symptomatique de ça.
Bon, il y aura une nouvelle version de votre critique bientôt en ligne sur le site du Monde. Hein. Julien Gester,
non, mais Mary Poppins. Un peu au diapason de ce que vient de dire Muriel. Après, tout dépend des attentes qu'on projette aussi sur ce
bien type sûr
d'objet, ce qui ne veut pas dire qu'il faut guetter
grande
ça
pour Lucille Comeau
avec mépris ou une forme de dédain de principe, mais c'est vrai que les films se font, les films de ce type d'échelle de production à ce niveau de budget là aujourd'hui se font d'une manière qui fait en tout cas que ce n'est plus le film de, souvent plus le film de personne. On ne confie plus à un vrai cinéaste ce type de moyens de production, et quand bien même on les lui confierait, il serait probablement noyé, plaqué au sol, ligoté et jeté dans un coin en lui demandant de jeter éventuellement un œil à la direction acteur de temps en temps. Donc ce qu'on peut projeter sur ce type de film comme attente, il me semble, c'est soit, enfin, c'est une attente vis-à-vis de ce qui serait peut-être le génie du système, enfin, une forme de retour de ça à ça, et soit une forme d'accident heureux qui provoquerait un alignement général des données, mais sauf que ici, en effet, je découvre par ce que vient de dire Muriel Joudet que Marshall a la candeur de carrément dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire que voilà, il y en a un peu pour les adultes, un peu pour les enfants, un peu pour les gens qui ont vu le film en telle année, et puis, mais c'est vrai que le gros du film, en tout cas dans sa première partie, quand on assiste essentiellement à ces scènes qui sont des transitions entre des tours de manège, en gros. Et donc quand la part des tours, des transitions est plus importante que la part des tours de manège, c'est vrai qu'on regarde ça en comptant un peu, alors temps pour tel transgénérationnel, on décrypte finalement, on se délasse en déchiffrant l'algorithme marketing qui a été mis en place pour cracher ce scénario. Après, ce qu'on peut attendre, en effet, d'un film de cette nature-là, et moi, cette attente, elle est sans cesse renouvelée par chaque nouveau film qui se présente. C'est, à défaut que tous les paramètres, tous les facteurs soient alignés, ce qui est finalement assez rare, c'est que ces films sécrètent une, deux, trois, quatre images qu'il est impossible de voir ailleurs, finalement, que dans un film qui a coûté aussi cher, qui a engagé autant de compétences, éventuellement de talents, de gens, etc. Et pour le coup, bon, ce sera maigre au regard des 2h11 que le film a au compteur. Mais je trouve qu'il y a, en effet, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, quelque chose sur les zones de transition entre la réalité, enfin cette réalité qui n'est le réel de personne, ni passé, ni présent, ni futur, en tout cas je le souhaite, un autre monde ne peut jamais ressembler à ça, mais qui est totalement contrefait, artificiel, où personne, tout le monde a l'air mort, mais où on cire, mais toutes les scènes de transition entre ça et le rêve, dans une scène de réenchantement, là, c'est une des premières, dans une salle de bain, avec juste un dauphin qui passe, ça donne des choses assez belles, cette entrée dans la porcelaine, une chorégraphie pour bicyclette à un moment donné, mais on a le sentiment que c'est des espèces d'éclats, c'est trois plans par-ci par-là qui viennent chauffer, qui vous donnent un shoot de quelque chose, et puis le reste c'est totalement assommant.
Enfin, Lucille Comeau sur Le Retour de Mary Poppins.
Non, mais je vais pas du tout défendre ce film qui m'a vraiment profondément ennuyé. Moi, j'ai un rapport un peu particulier avec Mary Poppins, ça me fait complètement flipper. Le premier, c'est l'enfer.
Peur, hein.
Ça me fait toujours peur aujourd'hui. Ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'on ait choisi, enfin, la stratégie Disney me pose vraiment question sur, parce que vous disiez, il n'y a pas de récit, mais il y a quand même un récit. C'est-à-dire que ça se passe pas, c'est pas non plus un remake, ça se passe pas dans les mêmes années 1910 que Mary Poppins. Ça se passe pas non plus aujourd'hui, parce qu'on aurait pu imaginer, vu qu'en effet, Mary Poppins, bon, bah, c'est la même problème tout le temps, qu'elle revienne aujourd'hui. Et à la limite, ça aurait été assez drôle. Là, ça se passe 20 ans après. Et ça, je trouve ça quand même assez intéressant. Moi, j'ai vraiment vu le film repasser par-dessus l'ancien en proposant à seulement 20 ans d'écart. Et vous parliez de conservatisme. Le premier Mary Poppins, il y avait quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que Mary Poppins arrivait pour pallier à la fois au manque de fantaisie du père et aussi l'absence de la mère qui était une suffragette et qui défendait le droit de vote des femmes. Là, en l'occurrence, c'est 10 fois pire. C'est-à-dire que là, il n'y a qu'une seule figure féminine possible, c'est Mary Poppins qui vient remplacer la mère qui est morte.
Qui est
c'est quand même
morte,
autre chose, je trouve. Dans le premier, bon, il y avait quand même deux modèles féminins possibles, c'était un petit peu intéressant. Là, il n'y en a plus du tout. Enfin, c'est juste Mary Poppins qui est en effet cette espèce de nounou totalement flippante. Et les personnages apparaissent d'autant plus morts. Enfin, c'est extrêmement angoissant. Moi, je voulais juste quand même mentionner la musique parce que vous avez parlé
vous demander,
des techniciens.
Oui, 30 secondes.
Bon, quand même, du point de vue de la pure comédie musicale, moi, je trouve les chorégraphies assez catastrophiques et notamment celle des vélos, je la trouve horrible. Parce que le ramoneur a été remplacé par des allumeurs de réverbères à vélo. Bref, c'est horrible. Mais la musique, quand même, moi, je trouve qu'elle a du style, même si ça regarde vers une musique Broadway extrêmement classique. Elle est plutôt bien dirigée. Je sais plus qui l'a composée, mais je l'ai pas notée. Mais en l'occurrence, pour le coup, la promesse du Broadway, du grand Broadway, est relativement tenue de ce point de vue-là.
Mais on se souvient d'aucune chanson, quand même, ce qui est quand même
c'est très, très
grave.
Moi, je me souviens
un film à voir les yeux fermés.
Je vais les chanter, mais je les ai un petit peu.
Non, un film à voir les yeux fermés, je résume. Le retour de Mary Poppins de Rob Marshall. Et nous concluons à vélo cette émission avec le jeu de la dispute et Clémence Marie qui nous a rejoint, qui nous va d'abord nous rappeler la question que vous avez posée vous-même hier soir et nous donner sa réponse, Clémence.
Quel est le nom du premier long métrage de Mamoru Osada? Et la réponse était Les Enfants Loups.
Et ce soir, nous avons gagné des invitations pour la nocturne des expositions Egon Schiele et Jean-Michel Basquiat, c'est vendredi 4 janvier à la Fondation Louis Vuitton à Paris. Quelle est la question, Clémence?
Quel peintre, figure de la sécession viennoise, a été le maître d'Egon Schiele?
Votre réponse, ainsi que vos coordonnées postales, à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Toute la semaine prochaine, c'est Lucille Como qui présentera la dispute. Elle vous donne donc rendez-vous, sauf erreur, vous me corrigerez. Lundi à 19h, dispute spectacle vivant avec Anna Segalevitch, Marie-Josée Sirach et Jean-Christophe Briançon. Vous parlerez de Peau d'âne. On reste sur la thématique féerie musicale. Après le film de Jacques Demy, c'est au Théâtre Marigny. La Petite Sirène, on est également dans la thématique de Géraldine Martineau, c'est au studio théâtre de la Comédie Française. J'ai des doutes, texte de Raymond Devos par François Morel au Théâtre du Rond-Point. Un coup de cœur d'Anna Segalevitch pour Daou, d'Ilia Krasnasovski.
France Culture, l'esprit d'ouverture.